Vous écoutez
RMC.
8h passées de 1 minute et il y a encore de la pluie, Géraldine.
Encore, et je vous préviens, c'est pas terminé. Vigilance orange sur la Gironde parce qu'il y a toujours les risques de crue, en particulier au moment de la pleine mer. Donc ça sera plutôt ce soir maintenant. Et puis vigilance orange sur le Morbihan pour les fortes pluies parce qu'on a un peu la même situation qu'hier. Une perturbation qui arrive par l'Atlantique, des remontées de Méditerranée, tout ça qui va se rejoindre, donc ce qui va nous donner de la pluie quand même sur la plupart des régions pour aujourd'hui. C'est plus calme dans le nord-est avec même un petit peu de soleil. Les températures sont en hausse. On garde vraiment la douceur. Il fera souvent 10 à 15 degrés pour cet après-midi, on ira même jusqu'à 17 pour Biarritz.
La météo sur RMC avec Penny Lane. L'outil qui réunit compta, facturation et compte pro.
Quand la compta va, tout va.
8h passées de 1 minute. Excellente journée à tous. Merci d'avoir choisi RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Question ce matin, êtes-vous satisfait de votre niveau de vie? Question à la une ce matin, puisque le PIB par habitant est en dessous de la moyenne européenne en France et 77% des Français estiment d'ailleurs qu'ils ne sont pas assez payés. On sera dans le journal à Sanary-sur-Mer. Les cours reprennent deux jours après l'agression au couteau d'une enseignante par un élève qui doit être présenté à un juge d'instruction ce matin. Et on va dresser déjà les enjeux du tournoi Destination qui commence ce soir en rugby pour la France contre l'Irlande. Grosse affiche un jeudi, c'est à cause des JO.
Nous avons désormais en France un niveau de vie inférieur à la moyenne européenne.
Oui, alors là, on n'a que des paradoxes, hein, parce que pour la troisième année consécutive, le PIB par habitant de la France, septième puissance économique mondiale, est inférieur à la moyenne de l'Union européenne. La faute à notre incapacité à changer de modèle économique. C'est la phrase qui est à la une du journal Le Parisien ce matin, avec une impression de déclassement. 77% des Français ont le sentiment que le travail ne paye pas, d'après un sondage Elab pour BFM TV. La preuve écoutée avec Victor Girard et Philippine Boulet pour RMC.
Ça ne fait aucun doute pour Asdine.
Non, ça ne paye pas le travail.
À 62 ans, cette femme de ménage compte sur des heures supplémentaires pour subvenir à ses besoins.
Quand on me demande, je dis jamais non, 12 euros, bah ça fait de l'argent qui rentre. J'en ai besoin. Quand je paye mes factures, j'ai pas assez pour vivre.
Jonathan a 48 ans. En tant que tourneur-fraiseur, il touche 4000 euros par mois.
J'ai la chance d'avoir un bon travail dans une très grosse entreprise.
Mais il estime que ces dernières années, son niveau de vie a baissé.
Je commence à regarder les prix, alors qu'avant, c'était pas du tout le cas. Les sorties, je fais aussi attention.
Père de 3 enfants, son salaire ne lui permet pas d'être propriétaire.
On est deux à travailler, qu'on a voulu acheter. Waouh, c'était compliqué.
Hugo est un ancien boulanger, aujourd'hui à la recherche d'un emploi. Il se souvient qu'en 4 ans, son patron n'a jamais pu lui accorder d'augmentation.
Il m'avait fait voir le prix qu'il payait, les matières premières, l'électricité, l'eau, le gaz. Plus ses employés faisaient même plus de chiffre d'affaires, ils perdaient plus d'argent que ce qu'ils gagnaient.
Pour améliorer leur niveau de vie, les sondés pensent qu'il faut optimiser son budget, investir ou déménager dans une zone où la vie est moins chère.
Et alors depuis ce matin, vous l'avez entendu sur RMC, on vous parle de ces 75 universités françaises qui, pour la première fois, commencent l'année dans le rouge. Hausse des étudiants, hausse des charges aussi, et en retour, l'État qui ne compense pas, selon les présidents d'université qui alertent ce matin. Et tiens, pour alerter sur une situation intenable en tout point, à Toulouse, les 12 enseignants d'une école du quartier de Saint-Martin-de-Touche sont en arrêt maladie depuis lundi. Les 12 en même temps, arrêt à répétition d'ailleurs depuis le début de l'année scolaire pour protester contre le manque de moyens, nous dit Jean-Wilfried Forquès pour RMC.
Depuis le début de la semaine, les parents d'élèves de cette école regrettent que les cours ne soient plus assurés.
La situation ici à l'école est intenable. Il n'y a aucun apprentissage qui est réalisé là sur le temps scolaire. Les enfants sont à la garderie.
L'école reste ouverte, mais pour Cécile, une maman, cette situation est le point d'orgue d'un problème plus profond.
Depuis le mois de novembre, il y a régulièrement jusqu'à 4 enseignants absents, donc un tiers des enseignants absents sur l'école, non remplacés.
Le non-remplacement des titulaires se répète trop souvent, selon les syndicats, ce que confirme Charazade. Sa fille est élève en classe de CM2.
Elle n'a pas d'apprentissage, elle est répartie en classe de CP où elle fait ce qu'elle peut. Donc du coup, ils vont rentrer au collège comment?
De son côté, Christian Mindivet, le directeur académique de l'éducation nationale, promet une solution en début de semaine prochaine.
C'est une situation qui est très inconfortable. Nous mettons tout en œuvre pour trouver tous les remplacements nécessaires. D'ici lundi, les élèves pourront retrouver des conditions de travail normales.
Et il explique que la Haute-Garonne et le département de France où le nombre de remplaçants disponibles est le plus faible.
Il est 8h05, les cours reprennent ce matin au collège de Sanary-sur-Mer, dans le collège où une enseignante de 60 ans, toujours entre la vie et la mort ce matin d'après sa famille, a été poignardée par un élève de 14 ans qui a expliqué aux enquêteurs avoir agi par vengeance. Pierre Bazin, envoyé spécial pour RMC du service police-justice, c'est ce matin que l'adolescent doit être présenté à un juge d'instruction.
Oui, le juge va certainement lui notifier sa mise en examen pour tentative d'assassinat. À l'issue, il pourrait être placé en détention provisoire dans un quartier pour mineurs, le temps de l'instruction et pendant un an maximum. Ces dernières heures, face aux enquêteurs, il a reconnu les faits. Il explique même avoir prémédité son geste, puisqu'il reprochait à la victime d'avoir signalé plusieurs incidents le concernant sur Pronote, alors qu'il estimait cela injuste. D'après ses propres déclarations, l'adolescent de 14 ans indique qu'il avait déjà envisagé de poignarder l'enseignante une semaine avant les faits et s'était finalement ravisé. Mardi, rempli de haine selon ses explications, il a pris un couteau dans la cuisine familiale avant de se rendre au collège et de passer à l'acte. Lors de la perquisition à son domicile, les enquêteurs ont notamment retrouvé plusieurs armes blanches dans la chambre du suspect. Il expliquait qu'il trouvait ça stylé, selon ses propres mots.
Le français Tom Félix est de retour en France, tout juste acquitté de trafic de stupéfiants en Malaisie où il risquait jusqu'à la peine de mort. Il a atterri tôt ce matin à l'aéroport de Roissy. Encore un, tiens, qui ne passera pas par la primaire de la gauche pour l'élection présidentielle de l'année prochaine. Le socialiste Jérôme Gage annonce ce matin sa candidature, mais sans participer à la primaire qui est prévue le 11 octobre prochain. Ça recommence au Rassemblement National. On est, vous savez, en pleine campagne des municipales et le RN annonce qu'il retire l'investiture de sa tête de liste dans la ville de Carpentras après les tweets racistes révélés cette semaine dans la presse. Ça rappelle l'épisode des brebis galeuses lors de la campagne des dernières législatives. Le parti avait promis d'ailleurs un examen approfondi des candidatures, Romain Houg.
Oui, on parle là de dizaines de tweets publiés par ce candidat Rassemblement National, Christian Richaud-Simoni, depuis 2017 sur son propre compte. Des messages à caractère raciste, sexiste, homophobe ou encore handiphobe, visant parfois directement des personnalités publiques comme Omar Sy ou la députée LFI Danielle Obono. Le Rassemblement National désapprouve et condamne sans réserve, indique son délégué départemental dans le Vaucluse, et assure que le parti n'avait pas connaissance de ces publications. L'investiture de ce candidat lui est immédiatement retirée. Il est également suspendu du RN dans l'attente d'être convoqué devant ses instances disciplinaires, précise le communiqué. Christian Richaud-Simoni a désactivé son compte mercredi matin avant de le réactiver, mais avec 300 postes en moins. Une nouvelle tête de liste sera désignée très prochainement à Carpentras, indique le parti.
Aux Jeux Olympiques de Milan-Cortina, vous savez qu'RMC est la radio officielle de ces Jeux d'hiver, et bien sachez que la neige perturbe les premières épreuves. C'est un comble, l'entraînement de descente est annulé aujourd'hui à cause des chutes de neige. Les Jeux sont lancés avant même la cérémonie d'ouverture qui est prévue demain à Milan, et c'est d'ailleurs en raison des Jeux Olympiques, et bien que le tournoi des Six Nations en rugby commence exceptionnellement ce soir, un jeudi. On n'a pas l'habitude en rugby, la France contre l'Irlande, ça se passe au Stade de France, Wilfried Templier, chef de la cellule rugby en direct ce matin pour RMC. C'est vous qui allez commenter le match, des Bleus donc qui sont favoris pour ce tournoi mais qui ne veulent pas s'enflammer.
Eh oui, pas question encore de parler de grand chelem, c'est l'arrière Thomas Ramos qui le disait cette semaine. Un tournoi des Six Nations, ça se construit et on attendra avant de rêver de cette finale, ce France-Angleterre à la dernière journée, le samedi 14 mars. Mais vous savez compter, c'est dans un mois et demi. Avant, il faut valider les changements opérés par Fabien Galthié dans son groupe, puisqu'il n'a pas hésité à écarter des cadres comme Aldrit, Ficou ou Penaud, des joueurs expérimentés. Place à des plus jeunes, mais aussi à des hommes en forme, d'où la titularisation à l'ouverture du Bordelais Mathieu Jalibert, qui profite de la blessure de Romain Ntamack pour former la charnière avec Antoine Dupont. De retour de blessure, Dupont-Jalibert, un duo qui fait saliver les fans d'un rugby d'attaque. Alors ce soir, à un an et demi de la Coupe du Monde en Australie, le sélectionneur Fabien Galthié l'a annoncé, ils veulent retrouver la flamme qui les a souvent portés. Alors messieurs les Français, comme disait l'autre ce soir malgré tout, allumez le feu.
21h10, ce match avec vous, Wilfried Templier, France-Irlande pour l'ouverture du tournoi Destination exceptionnellement un jeudi.
C'était le journal de Quentin Vinet. Il est 8h10, place à l'économie.
RMC, Apolline Matin.
Le Chypre d'affaires.
Emmanuel, le Chypre ce matin, le délai de paiement.
Ouais, absolument, le non-respect des délais de paiement qui devient le cauchemar numéro un des patrons français. Alors, on sait que le montant des retards de paiement que subissent les entreprises, on est à 80 à 100 milliards d'euros sur les 800 milliards qu'elles se facturent chaque année entre elles. Mais ce que ne dit pas ce chiffre, c'est que ça touche quasiment toutes les sociétés. 9 entreprises sur 10 déclarent perdre de l'argent chaque mois du fait des paiements tardifs et un tiers se disent en difficulté à cause de ces retards de paiement selon l'étude que vient de publier Go Cardless, car cet argent qui ne rentre pas dans les caisses, c'est autant d'argent qui manque pour développer l'activité. Un quart des entreprises ont dû, à cause de ce manque de trésorerie, augmenter leurs prix. Autant ont reporté le lancement de nouveaux produits ou bien ont gelé aussi des recrutements.
Mais ce qui est bizarre, c'est qu'en même temps, on a quand même l'impression que ça reste un sujet tabou.
Alors moi, dans cette enquête, c'est ça qui m'a le plus surpris. Tabou entre les entreprises d'abord. Au cours des 12 derniers mois, plus de la moitié des entreprises ont évité d'aborder la question avec leurs clients. Pire, le chiffre le plus dingue, 8 entreprises sur 10 sont prêtes à renoncer jusqu'à 20% de leur chiffre d'affaires pour ne pas entrer en conflit avec leurs mauvais payeurs. Tabou aussi ce sujet à cause de l'État lui-même, premier commanditaire mais très mauvais payeur, surtout les hôpitaux et les collectivités locales, et État qui ne fait pas non plus respecter la loi LME qui, rappelons-le, est censé garantir des délais de paiement raisonnables.
Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour alors, être payés à temps?
Alors, il y a les voies traditionnelles, hein, la voie amiable avec les aides de relance, ça fonctionne moyen, imposer des pénalités, l'étape supplémentaire, c'est la mise en demeure, mais c'est épuisant. Après, il y a les procédures judiciaires, l'injonction de payer, etc. Contre l'État, c'est encore plus compliqué. Alors après, il y a des solutions, mais qui sont payantes et qui peuvent coûter cher pour acheter sa tranquillité de chef d'entreprise. C'est solliciter des sociétés d'affacturage. Donc la boîte vous rachète la facture est payée, mais ça a des frais. Évidemment, ça peut aller jusqu'à 5% du montant de la facture. Ouais. Donc quand votre marge c'est 3 ou 4%, bah voilà, ça sert à rien. Et puis il y a aussi l'assurance crédit. Là, c'est apparemment moins cher, mais bon, c'est compliqué parce que ça dépend du secteur, ça dépend de l'entreprise, etc. Donc ça aussi, ça coûte cher. Donc voilà, c'est un vrai fléau, un vrai poison.
Mais c'est bien aussi de réveiller
pour les entreprises françaises.
Tout le monde là-dessus ce matin. Merci beaucoup Emmanuel. Il est 8h10.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans un instant, c'est Arnaud Demange qui vient nous rejoindre comme chaque matin. 8h30, notez que l'invité du face-à-face, ce sera le plus haut magistrat de France, le procureur général près la Cour de cassation, comme on dit, Rémi Yates. On reviendra évidemment aussi sur les réquisitions du parquet à l'encontre de Marine Le Pen et les recours auxquels elle pourra éventuellement avoir accès. Juste après, il y aura Nicolas Canteloup et ses imitations. C'est comme chaque jour face à Canteloup à 8h50 sur RMC. 8h13, à tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Mais quel plaisir, c'est tous les jours qu'il
tous
est avec nous, Arnaud de Manche.
Que je rentre sur mon petit saxophone.
Ah, salut Arnaud.
On va parler musique d'ailleurs, tiens, ah, ce tiens. Matin. Ouais, ambiance RMC Gold, on va parler des Grammy Awards avant de parler d'actu, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais le Dalai Lama a obtenu son premier Grammy Award pour des livres audio, c'est véridique. Il a eu un Grammy, quoi. Trump devrait être jaloux. Non seulement il a eu le prix Nobel de la paix, Dalai Lama, mais en plus il soulève un Grammy, quoi. Alors soulever un Grammy, hein, c'est une récompense. Rien à voir avec soulever une Granny, qui est une catégorie YouPorn que personne n'aime.
Si, moi j'aime bien. Mais Brigitte.
Alors... Oh non.
Tout ça pour ça. Alors vous savez que le Dalai Lama est considéré par les bouddhistes tibétains comme la 14e réincarnation du maître que se sont choisis des moines en 1391. Mmh. Et oui, heureusement qu'on n'a pas ce système en France. À la fin du deuxième quinquennat de Macron, on devrait se taper la réincarnation d'Emmanuel Macron en version gamin. Horrible. Allez, en parlant d'enfants qu'on doit se taper, la grosse actu, ce sont les dossiers Epstein. Et hier... la transition est un peu acrobatique, oui. Mais au moins elle est claire. Hier, Jack Lang était sur votre plateau.
Oui.
Il a justifié sa relation avec Jeffrey Epstein. On n'avait pas vu une aussi mauvaise défense depuis le dernier match de l'OM, cataclysmique. Petit récap.
Madame de Malherbe, j'ai connu Jeffrey Epstein, pas comme pédocriminel, mais d'abord comme un esthète, un amateur d'art, charmant, érudit, incollable sur David Hamilton et Roman Polanski, très généreux, le cœur sur la main sur la teub sur ton nez.
Et
très famille. Toutes ses nièces et ses neveux qui batifolaient. Et cette générosité,
oui, cette générosité.
N'était jamais le dernier pour leur acheter des strings, du tanga, du monoï.
Alors vous avez essayé de le contrer un peu, mais vous ne saviez pas qu'il était déjà condamné pour pédocriminalité depuis des années.
Madame, si je devais cesser de fréquenter tous les gens condamnés pour pédocriminalité dans mon entourage, je finirais tout seul. C'est Woody Allen qui me l'a présenté.
Oui.
Et comment pouvais-je soupçonner que Woody Allen était le genre d'homme capable de tromper sa propre fille?
Et vous l'avez fréquenté longtemps, Jeffrey Epstein?
Non, je ne pouvais pas rester trop longtemps sur cette île des Caraïbes, car à 42 degrés, je fonds. Tout le plastique fait des petites bulles qui sont avalées par des tortues qui meurent étouffées.
Oh.
Horrible. Bref.
Bref, ce scandale éclabousse le monde. Il y a des vidéos qui commencent à sortir. Nous, à RMC, on a réussi à obtenir un audio exclusif, une conversation dans le poste de pilotage du jet d'Epstein, le Lolita Express.
un document édifiant.
Mais donc, Joy, tu avais déjà vu un cockpit ?
Non, monsieur, c'est la première fois que je prends l'avion.
Et tu as déjà vu un monsieur tout nu ?
Atroce, les grands classiques. Moi, j'ai peur de la suite avec Jack Lang, qui va revenir, qui va vous expliquer Madame de Malherbe. Je n'ai pas connu Michel Fourniret en tant que serial killer. Ce qui m'intéressait, c'était l'ami des forêts. S'il y a un procès pour Jack Lang, ça va être chouette en tout cas.
Merci beaucoup Arnaud. Jean-Luc Mélenchon revendique désormais d'être maghrébin.
Oui, c'est vrai que ça se voyait pas trop, c'était mieux de le préciser. Nous, on se faisait avoir par le fait qu'il s'appelait Mélenchon et qu'il était blanc. Eh ben non, c'est un fier berbère des montagnes. Il a déclaré en meeting à Aubervilliers.
Je suis né au Maghreb. Et comme une fois j'ai dit, je suis un maghrébin, un français. Quelle horreur! Comment? On peut dire qu'on est breton, on peut dire... Mais je viens du Maghreb.
Il est maghrébin, voilà. Il est maghrébin, et quand il parle aux Français, ses comptes français lui disent qu'il est même pas maghrébin. Ça se sent qu'il est en campagne, hein, quand même. Sur CNews, par contre, ils ont pas du tout été surpris. Tout à fait. Cet homme qui a vécu d'argent public toute sa vie sans jamais travailler ne pouvait être que maghrébin. Moi, j'aurais dit que blanc et né au Maghreb, c'était fils de colon, pas maghrébin, quoi. Ségolène Royal, elle est née à Dakar. Demain, elle va pas nous expliquer qu'elle est noire. Mais c'est vrai que d'un point de vue marketing à Aubervilliers, fils de colon, ça marchait pas. Donc maintenant, il est maghrébin. C'est-à-dire qu'il a les pires difficultés à trouver un appartement, à rentrer en boîte. Je parle même pas des contrôles aux faciès. Les flics l'arrêtent tout le temps. Bonsoir, monsieur. Vos papiers? Ah ouais, Jean-Luc. Encore un arabe, hein, Mélenchon. J'ai hâte de le voir en campagne dans le 13e. Il va leur expliquer. Je suis chinois. Attendez, j'aime les nems, j'adore le communisme, je supporte pas la démocratie, je suis chinois. Et quand il va aller draguer des féministes.
Je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme.
C'est pas un homme, c'était lui en fait. Et oui, c'était lui en fait. Là, il va aller voir les femmes en disant « Je suis une femme, j'ai un caractère de merde, je supporte pas la contradiction, je veux toujours avoir le dernier mot, j'ai les nichons qui pendent, je suis une femme. » Mélenchon, il me fait penser aux mecs de 45 ans qui ont un t-shirt retour vers le futur et qui draguent des filles de 21 ans aux soirées en disant « Hein, quelque part, on a le même âge ?» Hein, tu me donnes quel âge? Pendant qu'elles couvrent leur verre avec la main. Elles font attention. Donc attention Jean-Luc, ça se voit. Ça se voit. À demain.
À demain. Arnaud Demange, tous les jours pour notre plus grand plaisir. Il est 8h21.
Détendez-vous sur RMC avec Sup de Com, une école du réseau compétences et développement.
Et dans un instant, ça se passe sur RMC et BFM TV. Mon invité dans le face-à-face, c'est le plus haut magistrat de France. Le top du top, le patron de la Cour de cassation, Rémy Heitz. On va revenir évidemment sur les réquisitions dans le procès à l'encontre de Marine Le Pen. Quels sont d'ailleurs les recours auxquels elle pourrait avoir recours? Et c'est donc une des questions que je pose à Rémy Heitz dans un instant. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
RMC et BFM TV, il est 8h29. Bonjour Rémy Heitz. Vous êtes le procureur général près la Cour de cassation. Vous êtes le plus haut magistrat en France. Et il y a beaucoup de questions que je voudrais pouvoir vous poser ce matin. Des questions sur l'indépendance de la justice et des questions aussi tout simplement sur le fait de pouvoir juger. Est-ce qu'on peut encore juger et bien juger en France? Mais d'abord, bien sûr, ces questions sur ces procès politiques et celui de Marine Le Pen. Le procès des assistants parlementaires du FN, les réquisitions ont donc été prononcées mardi soir. Si elles sont suivies, Marine Le Pen pourrait être empêchée de se présenter. D'abord, est-ce que la justice peut vraiment ne pas être politique? Et puis ensuite, est-ce qu'il reste un recours? Et la Cour de cassation que vous représentez ce matin pourrait en être un. D'abord, est-ce que la justice peut ne pas être politique?
Bonjour. Vous avez employé l'expression tout à l'heure « procès politique ». Ce n'est pas un procès politique, c'est un procès qui a des conséquences sur la vie politique. Mais vraiment une affaire qui est jugée par des magistrats qui appliquent la loi, qui disent le droit et qui jugent des faits qui ont été commis. Alors, ce n'est pas pour autant que nous n'avons pas conscience collectivement des enjeux politiques. C'est la raison pour laquelle la justice, l'institution, s'est mise vraiment en mesure, eh bien, de traiter les voies de recours avant l'élection présidentielle. Mais respectons le calendrier. Il est tenu jusqu'à maintenant une décision de la Cour d'appel avant l'été, au mois de juin. Et s'il y a un pourvoi en cassation qui aura un effet suspensif, eh bien, s'il y a un pourvoi en cassation, nous l'avons dit, le Premier Président, moi-même, de la Cour de cassation, l'affaire sera examinée avant l'élection présidentielle, sûrement avant la fin de l'année ou en début d'année prochaine, donc quelques semaines avant l'élection présidentielle.
Quand vous dites avant la fin de l'année, et bien sûr, vous avez dit il ne s'agit pas de procès politique, bien sûr, je n'ai pas voulu dire qu'il s'agissait de procès politique, ou alors c'est une question en soi, mais il s'agit de procès qui ont pour objet des questions politiques, tenant aux politiques, et qui ont des conséquences, comme vous le dites, politiques. Quand vous dites ce calendrier, il a été tenu, est-ce que ça veut dire qu'il y a eu une forme de responsabilité prise par les différents magistrats, la Cour d'appel, vous-même ensuite, si toutefois Marine Le Pen décidait de se pourvoir en cassation, le calendrier politique a quand même un impact sur le calendrier judiciaire.
C'est une question en effet de responsabilité. Ce procès en effet a des conséquences, l'issue de ce procès a des conséquences au plan politique, et l'institution, encore une fois, a voulu tenir un calendrier pour permettre l'examen des voies de recours, puisque dans ce pays il y a des voies de recours, dans les délais. Et j'insiste bien sur le fait que le pourvoi en cassation, s'il intervient, aura une finalité très différente de l'appel, puisqu'il ne s'agira pas de rejuger l'affaire complètement, il s'agira d'examiner les moyens de droit, d'examiner cette affaire au regard de l'application de la loi, voir si la loi, la procédure ont bien été respectées.
Ça, c'est évidemment le rôle de votre juridiction, voilà, et on le reprécise pour que chacun le comprenne, voilà. Quelles que soient les affaires que vous jugez, exactement, que ce soit celle-ci ou d'autres, vous jugez non le fond, mais effectivement la procédure, pour vous assurer que la procédure a été correctement suivie, que le droit a été appliqué. Rémy Hetz, vous avez dit on jugera dans ces cas-là, si toutefois elle se pourvoyait en cassation, dans un délai très raisonnable. Vous parlez de la fin de l'année ou du début de l'année suivante? Je voudrais qu'on soit très précis. L'élection, si elle a lieu selon le calendrier qui est normalement celui des élections présidentielles, serait en mai 2027. Mmh. Quand vous dites fin de l'année, ça veut dire qu'idéalement, si c'est en décembre 2026, c'est jouable pour vous?
Alors, c'est court. Ça, après, si vous voulez, c'est
vous
le calendrier politique. En fonction aussi de l'évolution de la procédure, des moyens, de l'attitude aussi des partis, nous pouvons respecter un délai de 6 à 8 mois. Et donc, ça nous mène, en effet, à la fin de l'année ou au début de l'année.
Vous n'iriez pas au-delà de janvier?
C'est-à-dire que
tout cela
ne dépend pas non plus que de nous. C'est-à-dire que cela dépend aussi de la façon dont les parties vont agir, les moyens qu'elles vont soulever, les moyens de procédure notamment. Mais voilà, nous sommes sur un délai de 6 à 8 mois. Donc, en amont de l'élection présidentielle, plusieurs semaines avant l'élection présidentielle.
Après, plusieurs semaines, mais c'est vrai que Marine Le Pen, voilà, elle dit déjà que ça n'est pas suffisant, qu'elle ne peut pas laisser cette épée de Damoclès, en quelque sorte, au-dessus de la tête de sa campagne. Si vous confirmiez une peine d'inéligibilité en cassation, que ce soit décembre ou que ce soit janvier, il est trop tard pour changer.
Le calendrier, il est celui-ci. Cette affaire, c'est une affaire qui est ancienne. Je l'ai d'ailleurs moi-même connu comme procureur de la République de Paris. C'est une affaire qui,
vous étiez procureur de la République de Paris.
C'est une affaire dans laquelle, de nombreux recours ont été intentés. C'est donc une affaire qui a duré, mais aussi du fait des parties. C'est une affaire qui a duré. Elle arrive maintenant. Encore une fois, nous, notre responsabilité, c'est qu'une décision définitive intervienne avant l'élection présidentielle. Je peux pas aller au-delà parce que après, on se perd dans les hypothèses, inéligibilité, exécution provisoire. Il faut laisser les juges faire leur travail. Et laisser les juges faire leur travail en toute sérénité. C'est une responsabilité importante. Il faut je le dis parce que pour ces magistrats qui ont en charge ces grands dossiers, c'est difficile. Il faut du courage. Donc, laissons-les faire leur travail sans non plus tirer des plans sur la comète et sans, exploiter toutes ces hypothèses à l'infini. Un peu de patience, attendons la décision, on y verra beaucoup plus clair juste avant l'été.
Quand vous dites cela, il y a évidemment la question du procès des assistants parlementaires du FN, mais il y a désormais un grand nombre, en tout cas en ce moment, dans le calendrier judiciaire, oui, d'affaires politiques qui ont effectivement des conséquences politiques. Il y a évidemment les procès autour de Nicolas Sarkozy. Il y a eu, vous l'avez vu, l'expression tyrannie des juges qui avait été utilisée lors de la première, du premier procès sur les assistants parlementaires. Il y a Sophia Chikirou qui est elle-même candidate à la mairie de Paris, la candidate LFI, qui sera jugée en mai Donc il y a une concomitance juste après, juste après l'élection municipale pour escroquerie. Elle accuse la justice de vouloir nuire à son image. Sous-entendu, c'est vraiment personnellement contre elle, de vouloir gêner sa campagne. Qu'est-ce que vous répondez à
ça ?
Le
temps judiciaire, ce n'est pas le temps politique et ce n'est pas le temps médiatique. Voilà. Alors, il y a parfois, en effet...
Il se trouve que là, ça se...
Dans certains cas, ça peut s'entrechoquer. Mais ce n'est pas le fait de la justice. La justice n'est pas dans cette logique de prise en compte du calendrier politique.
Vous elle êtes choqué, veut, elle je ne, sens elle
ne,
de cette...
Non, elle ne veut nuire à personne, la justice. Dans certains cas, elle accepte des renvois.
Vous souhaitez nuire, c'est le mot qui avait été utilisé, nuire.
Oui, je suis choqué parce que ce sont vraiment des considérations qui sont totalement absentes chez les procureurs qui audience en quelque sorte, qui fixe le calendrier de ces affaires. Vraiment, moi je le dis, il n'y a pas de volonté d'instrumentalisation de la justice des affaires politico-financières. Nous jugeons les affaires, la justice a ses propres calendriers qui sont, encore une fois, je le répète, souvent induits par les parties elles-mêmes qui exercent souvent des recours et qui parfois retardent le cours qui pourrait être plus rapide de la justice. Donc n'inversons pas les choses. Il y a parfois peut-être des calendriers qui s'entrechoquent, mais encore une fois, c'est sans jamais aucune volonté de la justice d'interférer sur le calendrier politique, sur l'exercice démocratique.
Rémi Hetz, j'ai reçu récemment sur BFM TV le procureur général d'Aix-en-Provence qui regardait le calendrier judiciaire et qui disait « Nous ne pourrons pas tenir les délais qui nous sont impartis pour juger des criminels potentiels, pour rejuger, puisqu'il s'agit effectivement du procureur général d'Aix-en-Provence. » Il disait qu'il y aurait au minimum 19 accusés criminels qui vont devoir être remis en liberté courant 2026 parce que les délais ne pourront pas être tenus. C'est une situation très grave.
C'est une situation très grave. Je l'ai dit l'année dernière, nous allons dans le mur puisque nous ne sommes plus l'institution judiciaire actuellement en mesure de juger dans des délais raisonnables les affaires criminelles. Là où nous avions habituellement un volume à peu près de 2000 affaires à juger, aujourd'hui nous avons presque 5000 affaires. Et cela veut dire que nous ne pouvons plus respecter des délais qui sont des délais très stricts. Un an devant les cours criminelles départementales après l'arrêt de mise en accusation, 2 ans au maximum devant les cours d'assises, nous n'arrivons plus à tenir dans certaines cours d'appel ces délais, et donc il y a des risques de remise en liberté. D'où la nécessité de réagir, et d'où la nécessité de prendre des mesures fortes. Et à ce titre, je soutiens pleinement le projet présenté par le garde des Sceaux,
Gérald Darmanin,
de mise en œuvre d'un plaidé coupable criminel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, c'est une procédure que nous connaissons déjà en matière correctionnelle. C'est une procédure qui repose sur un accord négocié entre le parquet, le procureur et l'accusé, donc pour déterminer une peine lorsque les faits sont reconnus. Puisque lorsque les faits sont reconnus, eh bien, on peut sûrement aller plus vite
et ça gagnerait du temps.
Et centrer les débats sur la peine, sur la personnalité, avec bien sûr, en associant bien sûr la victime. Ça, c'est extrêmement important. Et vous savez, cette procédure de plaidé coupable à la française, de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité en matière correctionnelle, elle a fait l'objet de très grandes critiques lorsqu'elle a été mise en œuvre par la loi Perben il y a 20 ans. Et aujourd'hui, elle est totalement intégrée dans notre système, puisque un quart des poursuites devant le tribunal correctionnel, 25% des poursuites, plus de 100 000 affaires sont traitées comme cela. Et cette justice négociée, elle est une justice de qualité. J'insiste, ce n'est pas une justice au rabais.
C'est pas une justice bâclée.
Non, ce n'est pas une justice bâclée. Et je vais même vous dire, cette adhésion, en quelque sorte, du prévenu ou de l'accusé à la peine, souvent, elle est signe après d'une meilleure acceptation et donc d'une meilleure réinsertion parce que la personne, eh bien, adhère en quelque sorte à la sanction.
C'est
quelque chose d'intelligent. Ce n'est pas une solution, je le dis quand même. Je vous le dis clairement. Ce n'est pas la solution miracle qui va nous permettre de régler toutes les situations puisque les faits reconnus, c'est environ à peu près 1000 dossiers.
Donc sur les
5000. Donc ce n'est pas forcément la solution, une solution miracle, mais c'est un outil qui nous permettra d'avancer sur un sujet extrêmement compliqué. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui est très alarmant.
Je voudrais comprendre quelque chose, parce que vous dites...
Je le dis avec mes collègues procureurs généraux.
Vous êtes effectivement nombreux à tirer le signal d'alarme en disant, voilà, la situation, elle est extrêmement grave, vous venez de le dire. On a des criminels qui sont en attente d'être rejugés, qui vont donc mécaniquement être libérés. Je parlais des 16 d'Aix-en-Provence, mais j'imagine que quand on regarde, est-ce qu'on a une idée, c'est quoi? C'est une centaine sur l'ensemble du territoire qui vont devoir être libérés dans l'année? Vous avez l'idée?
Nous n'avons pas ce chiffre. Nous avons le signal d'alarme qui a vraiment été tiré par le procureur général d'Aix-en-Provence, mais ce risque-là, il existe. Alors, c'est le risque de remise en liberté, mais derrière le risque de remise en liberté, c'est le risque de récidive, de réitération des faits par des criminels qui peuvent être dangereux. Donc, il faut absolument que nous mobilisions tous les moyens possibles pour vraiment pouvoir juger les affaires.
Je voudrais que les gens comprennent une autre chose. C'est qu'au fond, là,
conditions.
On parle de ceux qui sont jugés... incarcérés, c'est-à-dire
oui,
on parle
exactement.
De ceux et c'est vraiment important. On touche à un point qui est comme le haut de la pyramide dont découlent ensuite toutes les affaires au fond et toute la justice de notre pays. Il y a ceux qui sont de manière préventive maintenus en prison. Ceux-là ont effectivement une sorte de droit à être jugés dans des délais raisonnables. C'est ces délais que vous n'arrivez pas aujourd'hui à tenir et qui font que vous vous retrouvez dans certaines cours de France à être obligés de les libérer parce que vous ne pouvez pas officiellement les maintenir en prison ad vitam. Le problème, c'est que si on n'arrive déjà pas à juger ceux-là, qui sont donc en quelque sorte dans une urgence du temps, derrière... Et je voudrais qu'on redescende la pyramide ensemble. Il y a ceux qui doivent aussi être jugés, parce qu'ils ont aussi commis des faits, mais qui, n'étant pas jugés forcément dans un présentant un danger immédiat, ne sont pas déjà derrière les barreaux. Ceux-là, au fond, les délais vont courir, de plus en plus, et ceux-là vont potentiellement n'être soit pas jugés, soit jugés très tard. Est-ce qu'on juge encore tout le monde en France?
Notre priorité, bien sûr, c'est de juger les détenus dans des délais raisonnable. Il faut dire d'ailleurs que la justice criminelle en France est une justice de très grande qualité. Regardez les procès comme le procès Mazan, le procès de l'anesthésiste Péchier. On se donne le temps de bien juger les affaires. Mais tout cela a un coût. Et qu'est-ce qui nous a mis dans cette situation? Parce que les auditeurs vont se poser la question. Pourquoi on en est arrivé là? Alors, il y a eu l'effet Covid, où on n'a pas pu juger des affaires pendant un certain temps. Mais il y a aussi la volonté de mieux juger les crimes avec la mise en place de la
Cour
criminelle.
Mieux juger, mais si on se retrouve à ne pas pouvoir juger.
Voilà, on a mis en place la Cour criminelle départementale, on traite aujourd'hui beaucoup mieux les affaires à caractère sexuel, la parole s'est libérée, il y a plus aussi de victimes qui déposent plainte, donc le gros de ces affaires, ce sont des affaires pour 85% devant les cours criminelles départementales, des affaires de viol, des affaires donc à caractère sexuel. Alors pour répondre à votre question sur les libres...
J'ai presque l'impression que c'est comme à l'hôpital ou aux urgences, on se retrouve à devoir en quelque sorte trier. Vous retrouvez dans cette situation-là aujourd'hui?
On se retrouve dans cette situation, et c'est vrai que vous mettez le doigt sur la difficulté donc de ceux qui sont libres, qui ne sont pas détenus, et pour cela, les perspectives de jugement sont très éloignées, et cela confine même parfois au déni de justice, parce que on ne sait pas quand...
On a ça aujourd'hui en France.
Oui, quand ces accusés pourront être jugés, d'où la nécessité d'avancer. Et je peux vous assurer que tous mes collègues font énormément d'efforts. On multiplie les sessions d'assises. On investit énormément de moyens au service de la justice pénale. Mais avec cette réforme sur le plaidé coupable criminel,
sur
cette procédure de jugement pour crime reconnu, je pense que l'on aura un outil supplémentaire qui nous permettra d'avancer. C'est quelque chose qui est vraiment demandé et attendu par les procureurs généraux.
Rémi, j'ai encore deux questions que je voudrais vous poser. Une sur l'imprescriptibilité d'abord. Il y a aujourd'hui des délais d'imprescriptibilité pour les crimes, notamment les crimes de sang. Et puis il y a eu cette affaire récemment, l'affaire Marie-Thérèse Bonfanti, qui avait été tué en 1986. En 2022, le meurtrier a avoué. Sauf que les faits sont prescrits. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les moyens que l'on a d'ADN, de preuves, y compris des années après, parce que les progrès techniques ont évolué, est-ce que ça a encore du sens d'avoir des délais de prescription qui font que cet homme ne va donc pas être condamné, que la famille de Marie-Thérèse Bonfanti se retrouve avec quelqu'un qui a avoué, mais qui ne sera pas condamné?
Voilà. Alors aujourd'hui, seuls sont imprescriptibles les crimes contre l'humanité. Les crimes, autrement, se prescrivent par 20 ans, avec une possibilité de prolongation jusqu'à 30 ans prévue par la loi. La question de l'imprescriptibilité des crimes de sang, là je parle surtout des crimes de sang, à mon avis, oui, se pose. Parce que ce que l'on voit déjà, c'est que rien ne nous empêcherait, rien n'empêcherait le législateur d'aller vers cette imprescriptibilité des crimes de sang. Et d'ailleurs, dans d'autres pays d'Europe, comme par exemple aux Pays-Bas, comme dans certains cas en Allemagne, les crimes de sang sont imprescriptibles. Donc c'est une piste sur laquelle il faut aujourd'hui vraiment travailler, parce que ce qui a beaucoup changé, et ce qui expliquait la prescription, c'est que 20, plus de 20 ans après, à l'époque c'était 10 ans, on ne pouvait rien faire, on ne pouvait pas investiguer. Aujourd'hui, avec notamment les recherches ADN, on peut investiguer, on peut mettre au jour des responsabilités.
Ce qu'on appelle les cold cases, par exemple.
Voilà, dans les cold cases. Et on se donne les moyens de le faire, puisque nous avons maintenant un pôle spécialisé à Nanterre qui fait un travail absolument magnifique, remarquable, et qui, cela permet d'élucider des crimes anciens. Donc, je le dis, la question de l'imprescriptibilité des crimes de sang se pose, oui, aujourd'hui.
L'indépendance du parquet.
L'indépendance du parquet, vous savez que c'est un sujet qui me tient à cœur, et je vous remercie de l'aborder.
Je sais, je vous suis, je vous regarde, je vous écoute.
Oui, moi c'est une réforme qu'inlassablement j'appelle de mes voeux. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'avoir des procureurs qui présentent toutes les garanties en termes d'impartialité et dont les conditions de nomination ne souffrent d'aucun doute. Or aujourd'hui, vous savez, il y a les magistrats du siège et du parquet. Eh bien, les garanties de nomination pour les magistrats du siège, les garanties prévues par la Constitution, sont beaucoup plus importantes que pour les magistrats du parquet. En deux mots, parce que c'est un sujet compliqué, mais les magistrats du siège, ils sont nommés après un avis qui est obligatoire du Conseil supérieur de la magistrature, qui est un organe collégial. Et moi, je voudrais que l'avis que rend ce conseil, qui est un conseil composé de personnalités extérieures, si c'est pas un conseil corporatiste de magistrats, je voudrais que cet avis, eh bien, soit obligatoire aussi, qu'il soit suivi obligatoirement. Parce que c'est quoi l'enjeu? L'enjeu, c'est de renforcer l'état de droit, puisque les procureurs ont de plus en plus de prérogatives, de pouvoirs dans notre pays. Nous le voyons, notamment lorsqu'on parle du plaidé coupable, avec des procureurs qui peuvent un jour peut-être négocier des peines criminelles, qui aujourd'hui sont les gardiens des libertés individuelles.
Il faut qu'on s'arrête, mais j'ai bien compris que c'était votre combat. Procureur général, près la Cour de cassation. Merci à vous. Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
8h50. Face à Canteloup.
Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup, le procureur Rémy Heitz était mon invité ce matin. Rebonjour.
Bonjour.
Et Marine Le Pen voulait réagir à cette interview, évidemment.
Oui, bonjour. Non, s'il vous plaît, stop. Oui. Si vous commencez à faire les malins RMC, moi je vous le dis tout de suite, de malheur, je m'en vais. Ah. Ok, je ne suis pas venu ici pour qu'on se fiche de moi. Pardon, excusez-moi, monsieur le procureur, pardonnez-moi ce mouvement d'humeur, votre excellence. Bravo en tout cas pour votre travail sérieux, rigoureux. J'ai toujours eu pour la justice la plus grande admiration et le plus profond respect. Votre majesté. Non, mais c'est vrai qu'on est parti du mauvais pied. C'est vrai que moi, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je traitais les juges de politiques, de partisans. Et eux, on peut soupoler, m'ont condamné à être inéligible. Voilà. Allez, vous savez quoi? On oublie tout. On pense, c'est pas ce qu'on a dit à l'époque. Voilà. On se dit, si on se revoit, mon Rémi, on repart sur une bonne page. Voilà.
Merci, voilà. Madame Le Pen. Nicolas Sarkozy voulait aussi réagir.
Bonjour, Madame Malherbe. Je voulais juste savoir si M. Heitz, il allait bien, pas trop fatigué. Non, parce que c'est vrai qu'avec tous les procès qui me font les juges alors que je suis innocent, tout le monde le sait. Eh bien, du coup, je suis à chaque fois obligé de me pourvoyer en cassation. Et tous ces pourvoyages, ben, ça ne fait qu'augmenter la charge de travail de ce pauvre monsieur Heitz.
Voilà.
Alors, comme je ne voudrais pas que Rémy il risque un burn-out, je voulais voir avec lui si en tant que procureur près de l'école de la cassation, et s'il ne pourrait pas directement, comment dire, cassationner tous mes procès d'un coup.
Ah voilà, un paquet.
Je ne dis pas ça pour éviter de retourner à la santé, c'est uniquement parce que je m'inquiète pour la sienne de santé.
Voilà, merci monsieur Sarkozy. Monsieur le procureur Rémy Heitz, une réaction ?
Écoutez, Madame de Malherbe, s'agissant de procédures en cours, le devoir de réserve, vous le comprendrez, m'oblige et je ne pourrais pas faire ici, vous le comprendrez très bien, de commentaires.
Allez, Monsieur Hetz, Laure Bécquiot, la procureure de Paris, elle n'hésite pas. Tiens, d'ailleurs, elle est avec nous. Allez, on vous écoute, Madame Bécquiot.
Écoutez, je ne suis pas contente. C'est du plagiat. Non, parce que, écoutez, quand j'ai écouté votre interview attentivement, venir 20 minutes dans votre émission pour dire qu'on ne peut pas répondre sur les affaires en cours qui intéressent pourtant tout le monde, c'est mon domaine, c'est du plagiat. Ne pas répondre aux questions, c'est moi qui fais les conférences de presse pour ça. Donc, c'est ma marque de fabrique, c'est mes droits d'auteur, Rémi. Ça fait pas trop rire, Rémi.
Non,
à mon avis, c'est sa copine. Vous pouvez partir quand vous voulez. Donc, j'ai engagé à l'encontre de Rémi Hetz, oui, mais voilà, une procédure pour vol et usurpation d'identité. Voilà, dans ta gueule, Rémi.
Oh,
je me suis surpris moi-même.
Oh là là,
vous êtes outrage à magistrat. Je m'accuse outrage à magistrat.
Je profite de votre présence. Où en êtes-vous s'agissant des bijoux volés au Louvre?
Alors, les bijoux, je suis très à l'aise pour répondre sur les bijoux. Écoutez, nous ne savons pas où sont ces bijoux, mais l'enquête avance, puisque nous savons aujourd'hui avec certitude où ils ne sont pas.
Ah oui, voilà. C'est déjà pas mal.
C'est-à-dire à peu près partout où on a regardé. Voilà.
D'accord.
Déjà, ils ne sont plus au Louvre. On est à peu près quasiment sûr à 100%. Mais la déception ce matin, c'est que les bijoux ne sont pas non plus dans le dossier Epstein.
Ah oui.
Alors qu'on aurait pu, parce que c'est vrai qu'avec tout ce qu'on trouve dedans aujourd'hui, on aurait su soupçonner.
Merci, Madame Bécquiot. L'actualité, c'est aussi une loi pour venir augmenter le prix des transports publics. Jean Castex, le PDG de la SNCF est avec nous, bonjour.
On l'a échappé belle. Augmenter le prix des transports, ça on sait faire. Non, parce que si on nous avait demandé d'augmenter autre chose, c'était beaucoup plus compliqué pour nous. Si on nous avait demandé par une loi d'augmenter la ponctualité à la SNCF, d'augmenter la propreté, la sécurité, la qualité du manger.
Mais
là, on aurait été dans une impasse. Mais là, augmenter le prix des tickets, ça, on sait faire.
Merci Jean Castex pour cette intervention vraiment constructive. C'est ce soir que démarre le tournoi des Six Nations. Antoine Dupont, bonjour. Vous êtes prêt à faire votre tour en bleu pour affronter l'Irlande, l'équipe contre laquelle vous êtes gravement blessé au genou, justement?
Oui, bonjour Madame de Malherbe.
Oui.
Même si je reprends l'équipe de France face à l'Irlande, contre qui je m'étais blessé, je suis serein pour mon genou, il n'y a pas de superstition à avoir.
Pourtant, vous portez quand même encore un gros bandage, votre genou il semble encore gonflé, non?
Non, ça c'est rien, c'est juste un bandage avec un peu de produit pour protéger mon genou. C'est juste 200 trèfles à 4 feuilles, 2 pattes de lapin, 4 fers à cheval. Voilà, mais sinon je suis serein, je vous dis.
Ah oui, je vois votre sérénité.
Protège-toi, toi.
Non, c'est quoi ça, hein?
Non, c'est rien, simplement le coq de l'équipe de France que je vais sacrifier, je vais l'égorger à la mi-temps, par précaution, sinon je suis serein, je vous dis.
Bon, ce soir, on va croiser les doigts pour vous, Antoine.
Ah non, faut surtout pas dire le mot croisé. Non, ça c'est pas bon pour les ligaments.
Ah,
non. Mais sinon, je suis serein.
Bon, écoutez, merci, moi je ne dis plus rien. Pour mieux comprendre les possibles conséquences des réquisitions contre Marine Le Pen, on retrouve le meilleur expert police justice d'RMC, Vincent Moscato.
RMC, le super Moscato Show.
Je vous promets que je suis un peu le Ray Mirex d'RMC. Lui, c'est le spécialiste du droit. Moi, c'est le spécialiste des droites. Voilà. Tu fais bien de demander à moi l'analyse politique, tu vois, sur l'affaire Marine Le Pen, parce qu'elle ne se présente pas en compagne que dalle. Parce que moi, je te le dis, Marine Le Pen, elle voudrait le mastic en 2027. Mais elle va finir au placard. Moi, c'est mon intuition, tu vois. Ouais, attends, je t'explique. Avant, t'avais Jordan, tu vois, Mandela, il était remplaçant le gosse. Tranquille, sur le banc de touche, en survêtement, claquette, chaussette, tu vas tranquille, faisais des selfies, couper les citrons. Puis là, t'as les juges, tu sais, les gosses, là, avec la grande cape, la rouge qui font peur, et le truc autour du cou, là, c'est comme c'est un dalmatien mort, là, je sais pas quoi. Ils sont en train de regarder la VAR, et là, c'est parfait, mais la Marine, elle est à deux doigts de prendre un carton rouge, tu sais. Tu sais à quoi je sens ça? D'abord, au pif, je sens au pif, et puis au fait que le Jordan, il t'a échauffement, il a mis le protège d'ail, surtout, il a scotché les oreilles, un chatterton. Et là, tu vois, tout le monde comprend que j'explique, tu vois. J'ai pas besoin de faire 10 ans d'études, tu vois, pour comprendre ça.
Merci. Nicolas Canclou, merci à Rémi de rester avec nous. Nicolas Canclou, qu'on retrouve donc dès demain à 8h50 sur RMC et à tout moment en podcast. Dans un instant, les GG, le programme Alain.
Eh bien, dans les grandes gueules, on évoquera les Français, selon un sondage qui s'estime mal payé à 61%, insatisfaits de leur salaire. Alors, comment est-ce qu'on arrive à changer ça? Et puis, la France insoumise qui se retrouve classée à l'extrême gauche et furieux. Est-ce que les LFI est un parti d'extrême gauche? 32-16 pour venir commenter ça avec les grandes gueules.